Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ceci est un message aux élèves de 3e. Le baccalauréat que vous obtiendrez peut-être et au mieux dans 3 ans ne ressemblera que de loin à celui qui existe aujourd'hui. L'examen, qui fête cette année son 210e anniversaire, va subir un gros toilettage. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a fait connaître ses arbitrages ce mercredi. Alors, dans le bac, nouvelle formule opérationnelle en 2021. Le contrôle continu sera pris en compte pour 40% de la note finale. Il n'y aura plus que 4 épreuves écrites. Le français en classe de première, la philo en terminale. Et 2 autres épreuves dites de spécialité en fonction du choix des élèves. 4 écrits et un grand oral d'une 20aine de minutes qui consistera à présenter un projet travaillé pendant la scolarité. Ajoutez à cela la disparition des séries S, L et ES dans la filière générale et vous obtenez une épreuve profondément remaniée dont les effets vont se faire sentir en amont et en aval, autrement dit dès le début du lycée, puis à l'entrée dans l'enseignement supérieur. Alors avant même que la réforme soit connue en détail, plusieurs syndicats d'élèves et d'enseignants s'inquiétaient de ses effets. En particulier sur son caractère inéquitable, voire inégalitaire. Les élèves les mieux dotés et les lycées les mieux cotés sont susceptibles d'être les plus favorisés. Alors un autre bac est-il souhaitable ? C'est le sujet de la discussion de ce soir en compagnie de 3 invités. Jean-Marc Huard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur général de l'enseignement scolaire, le DGESCO, numéro 2 du ministère de l'Éducation nationale, dont la mission consiste à élaborer la politique éducative et pédagogique. Vous étiez auparavant, vous avez été nommé, je crois que c'était l'été dernier, vous étiez auparavant inspecteur général de l'éducation nationale. Pour discuter avec vous, Clara Jaboulet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous présidez l'UNL, l'Union nationale lycéenne, une des organisations de lycéens. Vous avez eu votre bac en juin dernier, mais vous continuez à présider cette organisation jusqu'à son prochain congrès. Et puis, troisième invité, Philippe Boitrelot, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de SES dans le département de l'Essonne. Vous êtes par ailleurs formateur à l'ESPE de Paris. Il faut rappeler peut-être l'ESPE, ce que ça veut dire.
École supérieure du professorat et de l'éducation qui ont pris le relais des IUFM depuis maintenant 4 ans.
Voilà, et puis ancien président des cahiers pédagogiques. Alors avant que d'examiner, si vous le voulez bien, les différentes mesures qui ont été annoncées aujourd'hui, moi j'aimerais d'abord avoir votre avis à tous les trois sur la nécessité qu'il y avait à réformer cette épreuve, cet examen dont je le disais, hein, ça date de 1800. Est-ce qu'un toilettage était à ce point nécessaire parce que le bac ne remplissait plus les objectifs qui lui avaient été assignés, Jean-Marc Huard ?
Le bac, c'est un diplôme auquel nous sommes toutes et tous attachés. Il avait sans doute ces dernières années perdu un petit peu de son aura. Il est absolument nécessaire aujourd'hui de remuscler le baccalauréat, c'est les mots qui sont utilisés par Jean-Michel Blanquer, de manière à permettre la réussite de chaque élève dans l'enseignement supérieur. On est dans une situation aujourd'hui qui n'est pas satisfaisante. Vous savez que si lauréat du baccalauréat, 6 bacheliers qui rentrent en première année d'université sur 10, ne valident pas leur première année. On est donc dans une situation dans laquelle on a des taux de réussite qui sont en effet tout à fait satisfaisants et ils doivent continuer à l'être pour le baccalauréat et ensuite une réussite dans l'enseignement supérieur qui n'est pas satisfaisante.
Ce qui peut vouloir dire quoi alors que ce diplôme était attribué trop facilement, ce qui pouvait expliquer le fait que, comme vous le dites, il avait un peu perdu de son aura, de son prestige ?
Non, je crois que, et c'est le bac qui est proposé aujourd'hui, le souci premier que nous avons, c'est un souci de renforcement des disciplines pour aider chaque élève à réussir dans l'enseignement supérieur. C'est aussi la nécessité que nous avons de mieux accompagner, dans un souci d'équité tout simplement, chacun des lycéens pour qu'ils réussissent au baccalauréat et dans l'enseignement supérieur.
Clara Jaboulet, le bac tel qu'il existe aujourd'hui, est-ce qu'il vous paraît satisfaisant ou bien est-ce qu'au contraire, il mérite d'être amélioré et dans quel sens selon vous ?
Je pense qu'il y a un consensus sur le fait que le bac aujourd'hui, il n'est pas satisfaisant parce qu'il ne remplit plus ce pourquoi il a été créé. Pour nous, le baccalauréat, il a quand même des atouts, qui est un bac national et qui garantit à chaque élève un diplôme qui a la même valeur, quel que soit le lieu où on étudie. Pourtant, on a quand même remarqué qu'il y avait des choses qui n'étaient pas satisfaisantes. Le fait qu'aujourd'hui, le bac, c'est du bachotage. On s'y prend 2 mois avant et puis on apprend par cœur des cours pour les recracher sur sa copie, sur des épreuves qui vont de 2 à 4 heures. Et de fait, ça, c'est quelque chose qu'on veut éviter parce qu'on veut mettre en avant les compétences des élèves. On veut que demain, les élèves soient formés à analyser des informations, à pouvoir les retranscrire, à savoir les retrouver. Et en fait, c'est vers ça que nous, on souhaite avoir une réforme du baccalauréat, pas sur les modalités de passage des épreuves. Quoique, il faut sortir de ce bac épreuve-sanction sur une seule semaine. Mais on voulait que le bac, ce soit une réforme de la pédagogie et une réforme du lycée en tout premier temps.
Est-ce que c'est à tout ça que sert, ou en tout cas qu'est censé servir le bac, Philippe Boitrelot, c'est-à-dire sanctionner des compétences, sanctionner aussi une acquisition de savoir académique, et puis aussi permettre de poursuivre des études ensuite. Et est-ce qu'au regard de ces objectifs-là, le bac aujourd'hui est satisfaisant?
Vous l'avez parfaitement résumé, il y a deux fonctions au baccalauréat. Historiquement, le baccalauréat, c'est à la fois une sorte de certificat de fin d'études, hein, ça certifie ce qu'on a fait donc dans la scolarité précédente, et puis dès sa création, ça a été considéré comme le premier grade de l'enseignement supérieur. C'est d'ailleurs pour ça que les jurys de bac sont présidés encore aujourd'hui par des universitaires. Ces deux fonctions, il faut quand même le noter, elles sont liées dans le bac français, elles sont disjointes dans un très grand nombre de pays. Hein, où il y a à la fois un certificat de fin d'études et puis il y a d'autres modalités pour rentrer dans l'enseignement supérieur. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, alors qu'on a 80% d'une classe d'âge qui va réussir le baccalauréat et que l'objectif, c'est 50% d'une classe d'âge en licence, la partie lien vers le supérieur, elle est devenue extrêmement importante. Et puis, moi, je reviens aussi sur un point qu'a développé Clara Jaboulet à l'instant, qui me semble très important, c'est que le bac, c'est une épreuve qui est donc terminale, hein, on est d'accord, et de fait, ça détermine plein de choses en amont. En quelque sorte, hein, il y a un pilotage par l'aval, et donc ça détermine la pédagogie en amont. Donc, mieux évaluer des choses plus larges, des compétences plus diversifiées, c'est aussi un moyen de faire évoluer la pédagogie.
Est-ce que cette déconnexion aurait pu être envisagée entre justement le diplôme, le bac et la poursuite des études dont le supérieur Jean-Marc Huard, sauf erreur de ma part, le brevet des collèges aujourd'hui n'est pas déterminant pour aller au lycée. On peut très bien rater le brevet et être quand même inscrit au lycée. Ou bien est-ce qu'il fallait quand même garder la nature et la philosophie du bac.
Le baccalauréat est le premier grade de l'enseignement supérieur et encore une fois, je le disais tout à l'heure, je crois que chacun les Français sont attachés et les élèves sont attachés aussi à ce baccalauréat. Donc je crois qu'il n'y a aucun débat sur le fait de savoir s'il fallait ou non garder le baccalauréat et faire en sorte qu'il puisse ensuite assurer le passage dans l'enseignement supérieur. Ensuite, c'est dans quelle mesure la réussite dans l'enseignement supérieur est possible avec ce nouveau bac. L'idée, c'est véritablement que cette réussite soit véritablement améliorée. Nous avons une réforme qui comprendra, on le décrira je pense tout à l'heure, mais qui comprendra à la fois des épreuves terminales et du contrôle continu. Et je réagis à ce que vous disiez, ce que disait la présidente de l'UNL tout à l'heure. En effet, faire converger, je dirais, suite à une forme de bachotage, l'avenir des jeunes dans l'enseignement supérieur uniquement sur des semaines de fin d'année, ça ne peut pas être satisfaisant. Et je crois que ce nouveau bac, il consacre véritablement la fin d'un parcours et il consacre une préparation qui est faite très en amont. Et en cela, je suis aussi d'accord avec Philippe Boitrelot quand il dit que l'aval commande l'amont.
Alors cette consécration, elle passe notamment par une place importante accordée au contrôle continu. 40% de la note finale au bac sera constituée par du contrôle continu. Clara Jaboulet, est-ce que c'est une mesure, une première mesure de cette réforme qui vous paraît satisfaisante?
Pour revenir sur ce que je disais, il faut effectivement sortir de cette épreuve sanction, mais sans pour autant accentuer les inégalités entre les établissements scolaires. Parmi les 40% de contrôle continu, il y a 30% d'épreuves ponctuelles avec une banque nationale de sujets et avec une correction qui ne sera pas faite par les professeurs des élèves.
Voilà, et les 10% restants, ce sera à partir des bulletins scolaires.
Et les 10% restants seront à partir des bulletins scolaires. Nous, ce qu'on défendait, c'était uniquement ces épreuves ponctuelles, parce qu'il y avait la garantie d'un anonymat, parce qu'il y avait une banque nationale de sujets, et qu'on garantissait que chacune et chacun puisse passer ces épreuves ponctuelles, ces épreuves partielles, dans les mêmes conditions qu'un tout autre examen national.
Mais expliquez-moi en quoi le fait qu'il n'y ait plus d'anonymat, puisque c'est évidemment le contrôle continu, ce sont les enseignants, des élèves qui le connaissent, en quoi ça peut être créateur d'inégalités entre les établissements ?
Les 10% de contrôle continu sur les bulletins de première et terminale, c'est créateur d'inégalités parce que ça veut dire qu'il y a 10% de la valeur de notre baccalauréat qui va dépendre du lycée sur lequel on a étudié. C'est faux qu'il y a une classification des lycées aujourd'hui. Il y a des lycées parisiens, il y a des lycées de banlieue, il y a des lycées en REP. Et ben aujourd'hui, il y a un classement des lycées et on veut éviter et on refuse qu'il y ait un creusement des inégalités avec un diplôme qui n'aura pas la même valeur pour tout le monde parce qu'on viendra d'un lycée différent et parce que de fait, il y aura 10% de variables de la valeur de notre baccalauréat en fonction du lycée d'où l'on vient.
Alors avant de vous faire répondre sur ce point, Jean-Marc Huard, je voudrais savoir si Philippe Boitrelot partage le point de vue de Clara Jaboulet.
Alors, oui et non.
On a bien fait de vous faire venir, voilà, comme ça, vous allez être un peu notre arbitre ce soir.
Non, mais c'est... c'est en même temps, hein, on va utiliser cette formule classique. Il faut rappeler quand même que le contrôle continu, il existe sans que ça pose de problème dans un bon nombre d'autres situations, dans l'enseignement professionnel, dans l'enseignement agricole et même dans l'enseignement technologique.
Oui, parce que quand on parle du bac, il y a plusieurs bacs. On oublie trop souvent le bac professionnel.
La réforme du bac, c'est la réforme de 40% hein, seulement d'une génération, c'est-à-dire le bac général. Le bac techno, on n'y touche pas, et le bac pro, c'est une autre commission. Une autre mission qui va s'en charger.
Ouais, qui va rendre ses conclusions à la fin de semaine.
Moi, je trouve que ça part d'un certain nombre de présupposés qui sont pas forcément très sympathiques sur, finalement, l'éthique des enseignants. Comme si les enseignants allaient subir des pressions, etc. Moi, je pense que...
Ils peuvent surnoter leur chouchou et puis saquer ceux qui n'aiment pas trop, non ?
Moi, franchement, je trouve que c'est presque insultant pour les enseignants et qui font leur métier de manière extrêmement déontologique et rigoureuse. L'autre point, puisqu'on disait en même temps, c'est que ce poids de l'origine de l'établissement, il existe déjà, de fait. Il existe déjà, puisque dès l'instant où on veut s'inscrire dans une filière dite sélective, BTS, DUT ou CPGE, classe préparatoire aux grandes écoles, de fait, on regarde d'où on vient. Donc, il faudrait quand même pas se masquer derrière son petit doigt.
Mais est-ce qu'il ne va pas exister d'autant plus ce poids, justement, avec
c'est quand même de rappeler que les épreuves, donc des spécialités qui seront évaluées au retour des vacances de Pâques, seront prises en compte dans les fameuses attendues. Donc finalement, on réintroduit dans la notation des choses qui jusque-là n'étaient que de l'appréciation subjective des universitaires ou des BTS ou des commissions de BTS ou d'IUT. Donc voilà, il faut être nuancé là-dessus. Hein.
Jean-Marc Huard, pourquoi avoir voulu mettre du contrôle continu dans ce diplôme qui est le bac ? Alors, on parle bien du bac général. Et qu'est-ce que vous répondez à ce que dit notamment Clara Jaboulet ? C'est-à-dire cette potentialité d'inégalité accentuée, oui. Et entre les élèves et surtout entre les établissements.
Nous parlons du bac général et du bac technologique. Je crois qu'il faut déjà avoir confiance, Philippe Boitrelot le dit, dans les enseignants. Les enseignants, ils évaluent, ils notent en leur âme et conscience, et il n'y a pas d'autres critères, je crois, qui rentrent en ligne de compte. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, aujourd'hui, le contrôle continu, enfin jusqu'à aujourd'hui, le contrôle continu a un poids extrêmement important, voire exclusif, dans l'affectation dans l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, il n'y a que le contrôle continu, donc il n'y a que les bulletins qui sont intégrés à APB hier, à Parcoursup demain, ce sont les logiciels qui permettent l'affectation des élèves dans l'enseignement supérieur.
Et ce qui est logique, parce que les élèves n'ont pas encore le bac au moment où ils choisissent leur affectation.
Donc, demain, Finalement, la part de ce contrôle continu dans la poursuite d'études sera minimisée par l'introduction, comme le disait Philippe Poitrelot, des résultats des épreuves de français et des épreuves de spécialité qui se dérouleront au retour des vacances de printemps. Je voudrais vous rappeler aussi quelques chiffres. La Suède, aujourd'hui, c'est 100% de la note finale de l'examen de fin d'études secondaires qui est sous forme de contrôle continu. L'Allemagne, c'est 66%. L'Espagne, c'est 60%. Nous, nous sommes à 40%. Et parmi ces 40%, nous avons 30%, donc les trois quarts, qui sont où il y a une assurance d'anonymisation des copies. Les copies qui seront passées dans le cadre d'épreuves ponctuelles par les élèves, deux fois en première, une fois en terminale, seront totalement anonymisées. Ce ne seront pas les professeurs des élèves qui corrigeront les copies.
Donc il n'y aura pas de la possibilité de reconnaître l'écriture d'un des élèves qu'on suit.
Il
n'y
aura pas la possibilité de reconnaître l'écriture des élèves.
Non, mais qui est anonymisé, autant que ce soit totalement anonymisé.
Non, mais c'est pareil. Non, mais les établissements, les professeurs ont l'habitude de faire cela, notamment dans le cadre des bacs blancs aujourd'hui. Hein. Donc on est dans un système qui est parfaitement rodé et qui permettra de mesurer également l'effort de chaque élève sur la longue période et le travail de chaque élève sur la longue période.
Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut vous rassurer, Clara Jaboulet?
En réalité, il y a une solution au problème des 10% en contrôle continu sur les bulletins de première et terminale. Je remets absolument pas en cause le travail des professeurs et leur regard objectif sur ce que fait un élève. Mais il est vrai qu'il y a un classement aujourd'hui des différents établissements. Et oui, c'est vrai qu'aujourd'hui le bac ne sert plus à rentrer à l'université puisque il y a du coup un choix qui est fait en amont par les élèves. Mais il y a 30% de contrôle continu et nous on a une incompréhension sur le fait que pourquoi est-ce qu'on met 30% de contrôle continu sur des épreuves ponctuelles et pourquoi est-ce qu'on met 10% sur des bulletins si c'est pour une question de rigueur alors qu'on pourrait tout aussi bien travailler la rigueur sur les passages des épreuves ponctuelles qui permettrait de voir aussi l'évolution des élèves.
Et encore une fois, encore une fois, nous passons finalement de 100% bulletin à 10% bulletin. Voilà.
Alors toujours pour nuancer quand même, tout à l'heure on disait oui on joue pas tout sur une épreuve, mais on est en train de transformer le sprint en un marathon. C'est-à-dire que on est en train, le danger c'est quand même de sombrer dans une sorte d'évaluationnite. On va jouer tout son bac sur tout au long de l'année. Et donc, en fait, ça peut être le cas d'être un véritable marathon pour les élèves, une succession d'épreuves, enfin marathon, presque un steeplechase, hein, avec des obstacles, etc. Et donc, il faut quand même bien prendre ça en compte. C'est-à-dire que la dimension de l'évaluation qui serait là uniquement pour guider les apprentissages, elle disparaît au profit d'une évaluation essentiellement certificative et donc qui devient un instrument de sélection.
Reste que quand même ça ne représentera, même si c'est beaucoup plus important qu'avant puisque ça n'existait pas, 40% du total de la note, ce qui signifie que les épreuves telles qu'on les connaît jusqu'à aujourd'hui vont représenter 60%, sauf qu'elles vont être beaucoup moins nombreuses. Jean-Marc Huard, alors là, il faut nous expliquer donc 4 épreuves écrites, dont le français et la philo, et puis deux autres épreuves qui seront des spécialités qui auront été choisies dans leur cursus par les lycéens, si j'ai bien compris, et puis un grand oral. Pourquoi avoir voulu réduire aussi considérablement le nombre d'épreuves? Aujourd'hui, en filière générale, on est quoi, 11-12, je crois,
c'est
à peu près.
Oui, c'est ça, on est 11-12.
En techno, c'est...
Et en techno, ça peut être au-delà de 11 ou 12 épreuves. Et puis, tout dépend aussi du nombre d'options que le candidat a choisi. Je crois qu'il y avait vraiment une nécessité qui était de décongestionner le mois de mai et le mois de juin, hein, dans lesquels, effectivement, nous avions une concentration d'épreuves qui amenait des comportements de type bachotage. C'est pour ça que le programme présidentiel, nous sommes dans la réalisation d'un engagement du programme présidentiel de passer à un baccalauréat à 4 épreuves avec une dose de contrôle continu. Alors, très concrètement...
Ce qui peut d'ailleurs peut-être permettre de finir l'année un peu plus tard pour un certain nombre d'élèves qui est obligé d'arrêter début juin parce qu'il y avait le bac à passer.
Les parents d'élèves savent bien bien que souvent les élèves de seconde ou de première sont libérés très très tôt au mois de juin. On parle de reconquête du mois de juin depuis un certain nombre d'années. Nous allons réussir à reconquérir le mois de juin. Très concrètement, si je prends le calendrier d'un élève de terminale qui passe le bac 2021, en fin d'année de première, le candidat passe une épreuve comme aujourd'hui, une épreuve orale et une épreuve écrite de français. Au retour des vacances de printemps, il passe ces deux épreuves écrites terminales de spécialité, qui sont des matières qu'il a choisies, parce que correspondant à un parcours important.
Si je peux me permettre de faire le prof de base, on va s'amuser pour garder les élèves après le passage de ces épreuves dans la période qui suit. Hein.
Non, je crois qu'il n'y a pas. Enfin, je vais vous répondre là-dessus. Je termine simplement la présentation. À la fin du mois de juin, nous avons une épreuve écrite de philosophie et nous avons le grand oral, qui est quand même une nouveauté importante. Je rappelle quand même que dans toutes les évaluations internationales, les compétences des jeunes Français à l'oral sont considérées comme n'étant pas satisfaisantes. Le grand oral, avec une préparation qui commence dès la seconde, qui se poursuit en première et qui aboutit à la fin de terminale à ce grand oral, est un moyen véritablement d'améliorer les compétences des Français à l'oral.
Alors si vous voulez bien, on va revenir sur cette question spécifique du grand oral, mais déjà sur la réduction du nombre d'épreuves. Alors là, je me tourne vers notre prof de base, hein, puisque c'est comme ça que vous vous définissez, Philippe Wattrelot. Qu'est-ce que vous en pensez de cette réduction importante du nombre d'épreuves? Est-ce que vous, par exemple, comme prof de sciences économiques et sociales, vous craignez peut-être le fait que votre discipline soit sous-exposée par rapport à ce qu'elle l'était jusqu'à présent, sachant que, alors même si ça fait partie de la réforme du lycée, mais les filières vont disparaître, donc notamment la filière économique et sociale.
Les séries,
pardonnez-moi,
voilà.
Vous avez pas les filières. Les
filières technologiques, voilà. Professionnelles et
Et les séries, c'est S, E, S et
voilà,
L.
C'est ça. Écoutez, moi je pense que c'est pas tant le problème de la réduction du nombre d'épreuves en elle-même qui peut inquiéter le professeur de SES que je suis, que la fin de ces séries justement, hein, qui de fait vont disperser les choix. J'avais compté, il y a une trentaine de doublettes possibles. Hein. Alors moi d'ailleurs, je fais une petite parenthèse.
Pour dire les doublettes, hein, en quoi ça consiste,
hein. Le couplage de spécialités, hein, puisque dans le rapport Mathieu, on parlait de majeur et de mineur, là on ne parle plus que de spécialités. Moi ce qui m'inquiète d'ailleurs, j'ouvre une toute petite parenthèse, mais je répondrai à votre question ensuite, c'est que ça peut être ça aussi porteur d'inégalité. Est-ce qu'on va ouvrir ces 30 doublettes partout ? Dans tous les établissements, l'inégalité elle sera peut-être pas forcément sociale, mais elle peut être géographique. Je referme ma parenthèse. Sur les sciences économiques et sociales, bon, semble-t-il, on a échappé à une scission de cette discipline. On se rend compte finalement que les enseignements qui peuvent faire l'objet de couplage. Moi qui suis très vieux, ça me rappelle le bac des années 80-90, A prime, B1, B prime, B, A, C, D, D prime, E, F, etc. On peut reconstituer finalement des séries anciennes. Et moi la question que je pose, alors je précède peut-être votre question, mais la question que je pose c'est est-ce que cette réforme-là du bac et du lycée, hein, puisque est-ce qu'on peut réformer le bac sans réformer le lycée, c'est un petit peu la question implicite que vous posez, est-ce que ça va véritablement remettre en question la hiérarchie des séries qui existaient jusque-là? Parce que il faut bien voir que la réforme des coins Châtel de 2009-2010, finalement, elle a échoué sur ce plan-là. Le bac S restait le bac avec lequel on pouvait tout faire. Est-ce que demain, on ne va pas reconstituer des filières d'excellence?
Clara Jaboulet.
Je reviens juste sur ce qui a été dit sur l'offre d'enseignement sur l'ensemble des territoires. C'est effectivement là on
donc
a.
C'était la parenthèse qui avait ouvert.
Voilà, donc c'est la parenthèse qui avait été ouverte. Donc aujourd'hui, on a quand même un tronc commun qui est plus élargi, enfin renforcé entre les différentes séries. Et ça, c'est quelque chose que on félicite quand même puisque il doit y avoir un socle commun pour l'ensemble des séries. Mais nous, on voudrait aller plus loin sur l'ensemble des filières.
Parce que le tronc commun, il sera constitué, hein, dans le nouveau bac du français, de la philosophie, de l'histoire géo, de langue vivante, le sport.
Éducation physique et sportive.
Nouvelle, voilà, sport, voilà.
Éducation physique et sportive.
Et de cette nouvelle discipline, intitulé « Humanité numérique et scientifique ». Pour le reste, ce sera des spécialités. Voilà. Mais, donc vous, vous dites qu'il y a un risque que toutes les spécialités ne soient pas disponibles dans tous les établissements ?
C'est effectivement ce qui est dit. Aujourd'hui, on a des dotations globales horaires pour les établissements qui ne permettent pas, donc c'est les heures d'ouverture des établissements pour pouvoir enseigner, qui ne permettent pas d'ouvrir l'ensemble des filières. Il y a des moyens ne sont pas suffisants pour que tous les établissements mettent en place les enseignements qui sont proposés dans ce projet de réforme. Et de fait, on va avoir des établissements où ça va être disponible et d'autres où ça ne le sera pas. Et tout le monde ne pourra pas y accéder. Et ça, c'est dangereux aussi, juste au moment où il y a quand même une réforme de l'accès à l'enseignement supérieur qui accorde des attendus. Et je reviens particulièrement sur l'option, qui n'est pas une spécialité cette fois, mais par exemple l'option droit et grands enjeux contemporains, aujourd'hui pour accéder à la filière de droit, à la licence de droit dans l'université, il faut avoir fait un module de droit précédemment, et c'est vraiment révélateur des inégalités qui sera mis en place par ce panel de filières.
Alors il y a deux questions importantes qui sont évoquées là, Jean-Marc Huberti. À la fois, il y en a plus, mais restons peut-être sur deux d'entre elles. La question de la disponibilité de l'offre de spécialité. Est-ce que vous pouvez assurer que la totalité de l'offre sera bien proposée dans l'ensemble des établissements? Et par ailleurs ensuite, ce que cela va induire en termes de hiérarchie des différentes. Alors ça sera plus des séries, mais il y aura une multitude de possibilités. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez fait le calcul des probabilités,
On a en effet une trentaine de binômes ou de doublettes possibles. Alors, il faut arriver à comprendre comment les choses vont s'organiser. Ça a été dit, mais tous les élèves bénéficieront en première et en terminale du même socle. Donc on a une phase, je dirais, extrêmement majeure, de culture commune autour des disciplines fondamentales que sont le français, la philosophie en terminale, que sont l'histoire-géographie, l'enseignement moral et civique, les langues vivantes et, vous l'avez dit, l'éducation physique et sportive.
Allez, maths.
Ensuite, les mathématiques, je vais y revenir si vous voulez bien. Nous avons dans le socle commun un socle d'enseignement scientifique au travers de la nouvelle discipline qui s'intitule Humanité scientifique et numérique, qui permet à tous les élèves d'avoir un socle scientifique en première et en terminale. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Vous avez 50% des lycéens généraux qui n'ont pas d'enseignement scientifique en terminale. Tous les lycéens auront un enseignement scientifique autour de cette discipline d'humanité scientifique et numérique jusqu'en terminale.
Bon, ça c'est pour le socle commun, mais les spécialités.
Ensuite, l'organisation permet de construire au travers d'un parcours personnel, un choix de 3 disciplines parmi la liste des enseignements de spécialité, puis 2 en terminale. On a donc un choix qui est un choix progressif pour les élèves. L'élève construit progressivement son parcours. Il y est aidé en cela par du temps dédié à l'orientation.
Les lycées seront en mesure de proposer l'intégralité du choix ?
Alors, nous estimons qu'il y a entre 5 et 10 doublettes qui sont incontournables et qui seront proposées dans l'ensemble des établissements. Ensuite, il faut absolument que des doublettes, je vais prendre par exemple art et physique-chimie, qui sont des doublettes qui peuvent être tout à fait intéressantes, puissent être proposées dans un certain nombre d'établissements, au niveau d'un bassin, au niveau d'un département, et que les élèves qui le souhaitent puissent suivre ces enseignements.
C'est une illusion.
Philippe Boitrelot.
C'est une illusion, parce qu'en fait, ce qu'il y a derrière, c'est quoi ? C'est quand même Parcoursup, c'est les attendus.
Bien sûr.
Donc en fait, qu'est-ce qui va déterminer les choix des élèves ? C'est ce qu'ils devront envisager de faire après, c'est-à-dire dans le supérieur. Oui. Donc en fait, une doublette maths-art, ça peut sembler comme ça intellectuellement très pertinent, mais c'est juste complètement atypique et ça ne rentre pas dans cette logique qui est quand même un des éléments clés pour comprendre la réforme du bac et du lycée, c'est-à-dire le profilage vers les attendus de Parcoursup. Et donc ça veut dire qu'on demande à des gamins, dès la fin de la seconde, de réfléchir à leur orientation à l'université. Il y a quand même un vrai souci. Un autre mot, parce que on parle de culture commune depuis tout à l'heure. Moi, je pense quand même que... on a raté une occasion, finalement, d'une réflexion de fond sur ce que c'est que la culture commune. Je trouve que, bon, alors là, on parle d'humanité scientifique et numérique. Vous faisiez allusion au fait que j'étais professeur de sciences économiques et sociales. On est deux autour de cette table, d'ailleurs.
Je suis aussi professeur de sciences économiques et sociales.
Comment
j'imaginais comment que c'était ni Clara Jaboulet qui vient d'avoir le bac, voilà, ni moi qui je connais mon
comment
parcours.
Comment peut-on éviter de réfléchir sur une nécessité contemporaine qui est quand même cette troisième culture sur les sciences humaines et sociales? Je pense qu'on a raté une occasion ici. Voilà.
Je peux donner un exemple à Philippe Poitrelot. Qui va lui parler. Aujourd'hui, on sait très bien que dans le cadre des études d'économie-gestion, on a des élèves de série ES qui trouvent un certain nombre de difficultés en arrivant à l'université autour de l'enseignement, notamment des mathématiques. Oui. Dans le nouveau lycée, on imagine un élève qui a ce profil, le profil que vous décrivez, autour des sciences économiques et des sciences sociales. Il peut très bien prendre en triplette mathématiques, histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, et sciences économiques et sociales.
En plus, mathématiques expertes
Et ensuite, mathématiques complémentaires qui lui permettent effectivement d'avoir un apport en mathématiques supplémentaires. Ensuite, en terminale, avec un enseignement de mathématiques, qui sont des mathématiques de niveau tout à fait important pour pouvoir notamment poursuivre les études à l'Université d'économie et gestion, et sciences économiques et sociales, il maximise ses chances de réussite à l'université, et notamment dans les facs d'éco-gestion.
Ouais, mais ça, c'est quand même assez génial, finalement, ce qui est proposé, non, Clara Jaboulet, c'est-à-dire aux élèves, de pouvoir aussi moduler leur scolarité au lycée en fonction de disciplines qui les intéressent. Et on est peut-être moins dans une approche monolithique, c'est-à-dire à partir du moment où on a choisi une série, on est tous soumis au même cours. Il y a beaucoup plus de liberté. À partir du moment où il y a un accompagnement pour nous aider à profiter de cette liberté, ça peut être intéressant, non ?
C'est bien de donner l'illusion du choix, hein, mais quand on voit que tous les établissements scolaires, ils ne pourront pas offrir tout le même offre d'enseignement pour tout le monde, qu'il pourra peut-être traverser son département pour faire ce qu'il veut, nous, ça ne nous convient pas. Ça. En fait, c'est totalement insatisfaisant de voir que en fonction du lycée où on va aller, qui est déterminé par là où on habite et en général par ce que font nos parents, où est-ce qu'ils travaillent, parce que en banlieue, hein, on n'a pas les mêmes lycées que au centre de Paris, quoi. Donc non, ça c'est totalement insatisfaisant de voir que on laisse le choix aux lycéennes et aux lycéens de choisir leur enseignement, ce qui n'est pas vrai parce qu'ils ne seront pas tous accessibles. Et en plus, il y a quelque chose qui existe quand même aujourd'hui, qui est la question de la reproduction sociale. Il restera toujours une hiérarchisation des filières, des gens qui auront plus la capacité d'aller et les moyens d'aller faire des filières, enfin des modules un peu plus scientifiques. Et en fait, c'est quelque chose qui ne nous convient pas.
Quel est l'accompagnement qui est prévu, Jean-Marc Houillard, pour essayer peut-être d'atténuer justement cette reproduction sociale?
Je crois qu'il y a, enfin, encore une fois, hein, je pense que, enfin, aujourd'hui, le lycée n'est pas égalitaire. L'accompagnement qui est proposé dorénavant aux lycéens leur permet d'affiner progressivement leur choix. Dès la rentrée 2018, il y aura du temps spécifique dédié à l'orientation en classe de seconde. Ça n'est pas véritablement fait aujourd'hui. L'accompagnement personnalisé aujourd'hui, qui a été introduit dans la réforme de 2010, devait prendre en compte un temps spécifique d'orientation. Ce qu'on a vécu l'été dernier avec plusieurs dizaines de milliers de bacheliers non affectés dans l'enseignement supérieur montre que finalement, les choix n'étaient pas sans doute suffisamment travaillés. Donc de l'accompagnement dès la seconde sur l'orientation, un panel et dans la majorité des établissements les choix. Aujourd'hui les disciplines artistiques, c'est le cas, hein, ne sont pas d'ores et déjà proposées dans tous les établissements. C'est le cas également des sciences de l'ingénieur. Demain, les élèves auront la possibilité, au travers de cette carte, de ces propositions de disciplines, de composer leur projet, de le construire progressivement, en étudiant et en se projetant dans l'enseignement supérieur, et d'avoir véritablement des enseignements de spécialité qui leur permettent vraiment de réussir dans le SUP.
Alors, l'heure tourne, il nous reste 5 grosses minutes seulement. Et je voudrais qu'on revienne sur cette question du grand oral. On aura bien sûr l'occasion dans des émissions prochaines de revenir sur un certain nombre de thèmes qu'on n'aura pas eu le temps d'évoquer ce soir. Mais ce grand oral, puisqu'on parlait tout à l'heure, vous parliez, de Clara Jaboulet, de reproduction sociale. Alors ça, c'est un des reproches qu'on a pu lire ces derniers jours, qui disait que l'oral, c'est une compétence qui n'est pas répartie de manière égalitaire et qu'en fonction du milieu social dont on est issu, on a plus ou moins cette compétence-là et que du coup, ça pourrait là aussi renforcer des inégalités. Vous en pensez quoi, vous, Philippe Boitrelot?
C'est justement parce que c'est inégalitaire qu'il faut l'enseigner. Sinon, on se résigne. Sinon, on est dans la résignation et dans le fatalisme sociologique. C'est parce que c'est inégalitaire qu'il faut justement prendre ces inégalités à bras-le-corps et enclencher une véritable formation à cette compétence, qui est en effet une compétence importante, aussi bien dans le supérieur que dans la vie professionnelle.
Est-ce que c'est davantage discriminatoire que l'écrit ?
Je ne pense pas que ça soit davantage discriminatoire que l'écrit. Et je pense aussi que c'est quelque chose que les enseignants ont déjà bien en tête. Il faut rappeler que ce grand oral a quand même un faux air de TPE, de travaux personnels encadrés, qui disparaissent de fait, mais où déjà on préparait nos élèves à l'oral. L'histoire de l'art au collège, ou bien encore beaucoup de pratiques en primaire permettent de travailler ça. Donc il faut effectivement faire des choses là-dessus. Et moi j'ai envie de poser une question qui est une question importante, c'est qu'il faut donner des moyens qui soient pas forcément uniquement des moyens financiers, mais surtout des moyens humains, c'est-à-dire du temps de formation pour les enseignants, pour qu'ils puissent ensuite préparer leurs élèves à cette nouvelle épreuve. Enfin, nouvelle, qui a quand même eu des allures de choses déjà vues. Et un mot encore qui me semble importante, qui me semble très important, c'est que, de fait, ça veut dire que si on veut véritablement préparer ça, il faut prendre du temps. Quoi qu'on pense de la réforme, moi j'ai quand même envie de dire une chose, c'est que les délais sont juste injouables, infaisables. Et donc on gagnerait à prendre le temps de convaincre les enseignants, prendre le temps de se préparer, plutôt que de bricoler dans la précipitation.
En même temps, si vous annoncez une réforme et vous dites qu'elle va entrer en application en 2025, ça risque quand même énormément d'atténuer.
On parlait des pays scandinaves, par exemple, vous savez, la réforme de l'enseignement secondaire ou primaire en Finlande, par exemple, elle s'est faite sur 12 ans.
Jean-Marc Huillard, vous allez nous dire dans un court instant comment justement les élèves seront préparés à ce grand oral, mais votre avis sur cette question-là, Clara Jaboulet, ça permet aussi quand même un petit peu de diversifier les exercices.
On était favorable à ce qu'il y ait des travaux comme les TPE qui soient plus mis en avant dans cette réforme du baccalauréat. Je suis totalement d'accord quand Philippe dit qu'il faut enseigner l'oral. En fait, tout se jouera dans l'accompagnement personnalisé et c'est pour ça qu'il faut mettre les moyens. Il faut que les professeurs soient formés pour ce grand oral-là. Mais attention, nous aussi, ce qu'on voulait conserver avec le grand oral, c'était par rapport au TPE, c'était la préparation en groupe, parce que c'est aussi quelque chose qui était extrêmement importante dans l'élaboration d'un projet à plusieurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voulait conserver.
Vous allez créer dans chaque établissement des postes de professeurs d'éloquence, Jean-Marc Huillard.
Les lycéens sont effectivement attachés au travail collectif et ils seront satisfaits parce que le grand oral et notamment le projet sur les disciplines principales pourra être préparé collectivement, par plusieurs lycéens, et c'est aussi une compétence extrêmement importante que développer le travail en commun.
Et pourquoi c'est une compétence importante de savoir s'exprimer à l'oral?
C'est une compétence extrêmement.
Ça peut paraître un peu bête de dire ça quand on fait de la radio, mais
oui. Et quand on est à la radio, effectivement, et on utilise essentiellement notre voix et notre éloquence, c'est la preuve que
faudrait pas
c'est
réduire
absolument...
le grand oral à l'éloquence.
Tout à fait.
Bien sûr, il y a le projet. L'éloquence, c'est le paquet cadeau. Derrière, il y a le contenu.
Il y a le projet. C'est le rôle de l'école de la République que de préparer, que de réduire les inégalités. Le grand oral, par une préparation dès la seconde, permet véritablement aux élèves d'acquérir et d'être plus égalitaires face à cette compétence et cette compétence orale. C'est l'objet de tout ce bac 2021.
Juste d'un mot, Clara Jaboulet, il y a demain une journée de mobilisation contre la réforme du bac et contre la Parcoursup, enfin cette réforme de l'accès à l'université. Est-ce que la journée de mobilisation est maintenue malgré ce que vous venez d'entendre?
Oui, la journée reste maintenue puisque le bac ne sera toujours pas le passeport pour l'accès à l'enseignement supérieur avec la mise en place des attendus à l'entrée de l'université. Et c'est pour ça qu'on appelle les lycéennes et les lycéens à descendre dans la rue.
Merci beaucoup à tous les trois, Clara Jaboulet, Philippe Boitrelot et Jean-Marc Huard d'avoir participé à cette discussion que vous pourrez réécouter sur notre site franceculture.fr, sur la page du Grain à Moudre. Merci à toute l'équipe du Grain, Fanny Richer, Antoine Tricot, Virginie Ledoux, Antoine Dulster, Prune Saez, émission réalisée par Véronique Villa, avec à la prise de son Antoine Pitiloni.